Bienvenue au bulletin audio de l'Observatoire québécois du loisir. Afin d'obtenir l'ensemble des références, des tableaux et des hyperliens de ce bulletin, nous vous invitons à consulter le bulletin écrit disponible gratuitement sur le site Internet de l'Observatoire québécois du loisir. Volume 20, numéro 7, 2023. L'aménagement des espaces récréatifs, un défi de génération. Écrit par Benjamin Branget, chargé de cours de l'Université du Québec à Trois-Rivières, étudiant au doctorat interdisciplinaire en aménagement Université de Montréal. Lu par Frédéric Ross. Mise en contexte. En l'espace de quelques années, il a été possible d'observer l'émergence et la popularisation d'espaces récréatifs destinés à des individus et groupes de différentes générations. Souvent qualifiés d'intergénérationnels ou de multigénérationnels, ces parcs, centres ou autres infrastructures récréatives font la fierté des individus et autorités qui les conçoivent. Par exemple, au Québec, la municipalité de Saint-Hippolyte a aménagé des espaces intergénérationnels au parc Connelly, la ville de Dunham a conçu un parc intergénérationnel et multisport, la ville de Mont-Laurier s'est dotée d'une patinoire extérieure intergénérationnelle et multifonctionnelle, et la ville de Saguenay inaugurera en 2023 le Parc de la Paix, un parc multigénérationnel et multifonctionnel. Ailleurs au Canada, la ville de Vancouver applique l'approche All Age and Abilities dans la conception de ses infrastructures cyclables. Avec pour toile de fond ce foisonnement d'initiatives, ce bulletin revient d'abord sur les principales fonctions des espaces publics, puis propose un éclairage sur les principes d'aménagement qui devraient guider la conception des infrastructures récréatives destinées à toutes les générations. Les réalisations mentionnées plus haut traduisent la volonté de certaines collectivités de répondre par le biais de différents espaces récréatifs aux besoins et aspirations d'individus ou de groupes issus de générations différentes, enfants, adolescents, adultes et aînés. Elle démontre également une volonté de susciter un véritable dialogue entre ceux-ci par l'aménagement d'espaces rassembleurs et significatifs pour l'individu et la collectivité, espaces maintenant reconnus comme des outils essentiels à la qualité de vie des collectivités. Chapitre 1. Fonction des espaces publics. Les espaces publics constituent l'ossature des villes contemporaines. Dotés d'une dimension matérielle et immatérielle, ils sont des objets mouvants qui évoluent selon les individus et groupes qui les façonnent et animent. Porteurs de représentation, de sens et de signification pour leurs occupants, ils constituent un socle au sein duquel se concentrent de multiples usages, comportements et habitudes caractérisant la vie de la cité. Par définition destinés au public ou à une pluralité de publics, ils doivent pouvoir accueillir gratuitement et sans restriction, dans le respect de leurs différences et indépendamment de leurs caractéristiques et conditions, des individus et groupes variés. En tant que partie du domaine public non bâti, affecté à des usages publics, l'espace public remplit quatre principales fonctions considérées comme complémentaires et interreliées. La fonction circulatoire. En rendant possible et en facilitant le déplacement des individus dans un espace urbain par différents modes, actifs et motorisés, l'espace public répond à un besoin de mobilité considéré dans une perspective aussi bien utilitaire que récréative. Fonction environnementale. La fonction environnementale de l'espace public fait référence essentiellement aux espaces naturels verts et bleus, ainsi qu'aux services écologiques et écosystémiques qu'ils rendent au bénéfice de la survie humaine et des écosystèmes. Alors qu'ils offrent un potentiel intéressant de répondre aux défis environnementaux et climatiques, leur sélection, localisation, valorisation et préservation ne peuvent se soustraire aux objectifs de continuité, de complémentarité et d'opportunité qu'ils impliquent. Fonction sociale. L'espace public est un lieu de la vie collective des communautés. En son sein, les individus se croisent, se rencontrent, interagissent et partagent. Une fonction essentielle de la vie collective, la communication. En générant des opportunités d'interaction sociale, en permettant la rencontre, l'échange et le partage entre les individus et les communautés qui s'y rassemblent, il soutient la cohésion sociale, favorise l'expression de la diversité, renforce l'identité et la citoyenneté, limite l'isolement social et favorise le vivre ensemble. En ce sens, il constitue un espace de construction du lien social et constitue de facto une infrastructure propice au bien-être individuel et social, soit une infrastructure essentielle à toute vie sociale. Or, Il est maintenant prouvé que la qualité et la fréquence des interactions humaines, qu'elles soient ponctuelles ou courantes, programmées ou libres, sont intrinsèquement liées aux environnements sociaux et physiques au sein desquels elles se matérialisent. Ainsi, les fondations de la vie en société en dépendent. Fonction de stimulation. L'espace public est vécu et expérimenté au moyen de 5 sens: vue, ouïe, odorat, toucher et proprioception. Cette interaction sensible entre l'individu qui perçoit et l'espace urbain qui est perçu donne ainsi lieu au ressenti d'une certaine ambiance urbaine qui se joue sur différents plans, sensoriels, émotionnels, cognitifs et psychiques. Dès lors, les qualités sensibles de l'espace public contribuent à l'identité et à la singularité des lieux, en plus d'être contributives à l'expérience urbaine vécue. Chapitre 2. Complément d'intérêt. À la lumière des fonctions et usages variés qu'ils permettent, et en vertu des bienfaits tant individuels que collectifs qu'ils peuvent générer, les espaces publics doivent être conçus et aménagés avec grand soin pour répondre aux besoins d'un milieu en optimisant ou en maximisant les modes d'occupation et les opportunités de rencontre entre les individus et les groupes de population qui les investiront. En complément des critères décisionnels proposés par Thibault, il est d'intérêt de prendre en considération la localisation et la distribution des espaces publics dans la ville, leurs conditions d'accès, leurs fonctions qu'ils concentrent, les aménagements, équipements et mobiliers qu'ils proposent, la qualité d'usage qu'ils garantissent, le niveau d'entretien et de sécurité réelle et perçue qu'ils offrent, sans oublier la mutabilité et l'adaptabilité qu'ils permettent, notamment face à l'évolution des besoins des citoyens et citoyennes, qu'ils sont loin d'être homogènes d'un groupe à l'autre. De ces éléments dépendent la fréquentation, l'approbation et le sentiment d'appartenance que les espaces publics susciteront chez les acteurs sociaux du milieu au regard de leur expérience et vécu personnel. Pour autant, la conception en aménagement, notamment celle des infrastructures récréatives, demeure complexe. Elle ne peut être un exercice fonctionnel et réglé, faisant fi du contexte et des besoins qui la motivent. Chapitre 3. Espaces récréatifs et génération. Par les infrastructures et les équipements qu'ils offrent, mais également les programmes et activités de loisirs qu'ils permettent, les espaces récréatifs exercent d'abord une fonction de loisirs. Ils contribuent à l'offre d'une multitude d'expériences de loisirs, bénéfiques aux pratiquants et aux spectateurs. Cependant, ils exercent également une fonction sociale du fait de la mise en relation, l'interaction, l'échange et la socialisation qu'ils permettent entre des individus et groupes d'âge variés. Leurs usagers peuvent y tisser des relations, développer un attachement et se les approprier. Ces espaces rassembleurs endossent donc une double fonction, récréative et sociale. Ainsi, ils contribuent à l'épanouissement des individus et communautés en animant le quotidien, en soutenant l'adoption et le maintien d'une vie physiquement, socialement et culturellement active. Négliger le rôle socialisant de ces espaces, omettre les conditions nécessaires au vécu d'expériences de loisirs positives et signifiantes en leur sein, ou éluder les bienfaits qu'ils peuvent engendrer sur les individus et les communautés d'un milieu, constituent des impairs à éviter. A contrario, le succès de la conception et de l'animation de tels espaces réside dans la prise en compte des besoins des milieux par la création d'environnements propices aux loisirs et à la sociabilité, ainsi que dans les qualités qui en font des espaces publics à part entière, c'est-à-dire ouverts, inclusifs et accessibles à tous et à toutes en toute saison. Chapitre 4. Recommandations. Pour concevoir et animer des espaces récréatifs et d'autres infrastructures bénéfiques aux différentes générations d'un milieu, il est judicieux pour les autorités publiques et le personnel professionnel de... Premier point. Concevoir et maintenir au cœur ou à proximité des lieux de vie des infrastructures de loisirs variées, de qualité, attrayantes, confortables, accessibles et sécuritaires. Point 2. Créer des centralités en regroupant certaines fonctions urbaines complémentaires à proximité des infrastructures de loisirs de manière à en bonifier la fréquentation et en animer le milieu. Point 3. Raccorder chacune des infrastructures par des liens actifs qui faciliteront les déplacements à pied et à vélo au sein des réseaux maillant le territoire. Point 4. Agrémenter les parcours et lieux publics d'espaces de rencontre et de détente adaptés selon les saisons. Idéalement, ces espaces publics seront éloignés ou protégés de nuisances, offriront des commodités, seront accessibles sur de grandes plages horaires et à l'année, seront munis de bancs et de pièces de mobilier urbain, signatures à fort potentiel relationnel, et seront pourvus d'éléments signalétiques. Point 5. Agrémenter les parcours et lieux publics de repères visuels suscitant la curiosité, développant l'imagination et, si possible, en adéquation avec l'histoire du site et l'identité des lieux. Par exemple, en mettant en valeur les éléments identitaires existants ou en créant des percées visuelles. Point 6. Concevoir et maintenir des lieux publics sans obstacles, accessibles à toutes et à tous, et en mesure d'offrir une variété d'expériences positives, et ce, quelle que soit la saison. Point 7. Créer des ambiances urbaines adaptées aux usages et à l'emplacement des différents espaces publics. Point 8. Encourager la détente, la contemplation, l'oisivité, l'apprentissage, l'émerveillement et le jeu en valorisant le patrimoine naturel et bâti, en concevant des lieux identitaires générateurs d'expériences et en rendant ludiques certaines interventions. Point 9. Innover et dynamiser le milieu par le biais d'infrastructures éphémères. Celles-ci ont aussi le potentiel d'ouvrir la voie à des projets plus permanents à fort potentiel. Point 10. Concevoir et animer des lieux de rassemblement propices aux rencontres formelles et spontanées. Fin de l'énumération. Répondre aux besoins, attentes et aspirations d'individus et de groupes issus de toutes les générations implique une connaissance fine des caractéristiques propres à chacune de ces entités. Qu'en est-il des possibilités, limites, contraintes d'accès et d'appropriation, avantages et inconvénients qui s'impliquent à leur mise en relation? Face à ce défi, la conception et l'animation participative des espaces publics peuvent représenter une avenue fort intéressante. Impliquer les enfants, adolescents, adultes, aînés et seniors qui utilisent déjà ou pourraient bénéficier demain de ces espaces permet d'intégrer une variété de paramètres qui enrichiront les interventions à venir selon une vision durable et viable. De plus, cela permet de créer très tôt des liens entre les futurs usagers de l'espace concerné, puis d'offrir des expériences positives et porteuses qui seront propices à une cohabitation harmonieuse, donc au vivre ensemble. À ces conditions, il est possible d'imaginer que ces espaces publics ne s'imposeront ni aux populations locales, ni à la trame des villes, mais se fondront dans le paysage urbain et les habitudes de vie des communautés. Conclusion. La popularisation des espaces intergénérationnels et multigénérationnels révèle l'intérêt accordé au développement d'environnements destinés à des publics de tous âges. Les collectivités locales et leur personnel professionnel sont ainsi amenés à se questionner sur les interventions qui permettront de créer des expériences sociales et de loisirs positives, qu'elles soient planifiées ou non, puis à concevoir des environnements urbains de qualité pour toutes et tous. Cela suggère de répondre à plusieurs questions essentielles. Qu'est-ce qui caractérise et détermine la relation entre générations? Quelles retombées positives et négatives peuvent être anticipées? Quels fondements, principes directeurs et connaissances peuvent inspirer des solutions porteuses? Quel rôle peuvent y occuper les collectivités, les partenaires et la société civile? De la réponse à ces questions pourrait éventuellement être observée une véritable rupture dans la conception des espaces récréatifs. Celle-ci pourrait se matérialiser par l'inclusion des besoins, aspirations, conditions, caractéristiques et capacités de toutes les générations notamment. Il semble dès lors nécessaire de revenir au fondement du vivre ensemble et des relations entre individus et groupes. Cette question fera justement l'objet d'un approfondissement dans un prochain bulletin. C'était le bulletin audio de l'Observatoire québécois du loisir, volume 20, numéro 7, 2023. Afin d'obtenir l'ensemble des références, des tableaux et des hyperliens de ce bulletin, nous vous invitons à consulter le bulletin écrit, disponible gratuitement sur le site internet de l'Observatoire québécois du loisir.